Un ermite du désert disait « Tant qu'un homme ne se reconnaît pas pécheur, Dieu ne l'écoute pas. » Quelqu'un lui demande alors « Comment sait-on que l'on se reconnaît pécheur ?» L'ermite a répondu « Quand quelqu'un porte son propre péché, il ne voit pas ceux de son prochain. » Je vous invite à la prière. Nous voulons être humbles devant toi, Seigneur, et nous te demandons de guérir nos regards sur les autres. Apprends-nous à regarder ce qu'il y a de beau et de bon chez l'autre. Nous voulons être humbles devant toi, Seigneur, et nous te demandons de guérir nos paroles. Apprends-nous à être prompts à encourager et à louer. Nous voulons être humbles devant toi, Seigneur, et nous te demandons de guérir nos pensées. Apprends-nous à comprendre ce qui est bon et juste pour toi. Nous voulons être humbles devant toi, Seigneur, et nous te demandons de guérir nos gestes. Apprends-nous à oser des gestes dans le respect des autres. Amen.
Nous croyons en un Seigneur qui change nos regards, qui guérit nos paroles, qui transforme nos pensées, qui permet d'oser des gestes de partage. Nous croyons en un Seigneur qui pardonne, qui permet que chacune et chacun se relève. Nous t'en remercions, Seigneur. Nous allons partager la parole, la lecture des textes qui serviront à la réflexion. La tempête sur la mer. C'est Paul qui narre les événements, c'est lui le narrateur, et quand il parle au début de « il » au pluriel, il s'agit des marins, de l'équipage et du capitaine. Un léger vent du sud se mit à souffler. Et ils pensèrent qu'ils pouvaient réaliser leur projet. Ils levèrent l'ancre et avancèrent en se tenant près de la côte de Crète. Mais bientôt un vent violent, appelé vent du nord-est, descendit des montagnes de l'île. Le bateau fut entraîné. Il était impossible de le maintenir contre le vent et nous avons dû nous laisser emporter. Nous avons passé au sud d'une petite île appelée Koda, qui nous abritait un peu. Nous avons réussi alors, avec beaucoup de peine, à nous rendre maîtres du canot de sauvetage. Les marins l'ont remonté à bord, puis ils ont attaché des cordes de secours autour du bateau. Comme ils craignaient d'aller se jeter sur les bancs de sable des côtes de Libye, ils lâchèrent l'ancre flottante et se laissèrent ainsi entraîner par le vent. La tempête continuait à nous secouer violemment de sorte que, le lendemain, ils se mirent à jeter la cargaison à la mer et le jour suivant, ils lancèrent de leurs propres mains l'équipement du bateau par-dessus bord. Pendant plusieurs jours, on ne put voir ni le soleil, ni les étoiles, et la tempête restait toujours aussi forte. Nous avons finalement perdu tout espoir d'être sauvés. Ceux qui étaient à bord n'avaient rien mangé depuis longtemps. Alors Paul, devant eux, debout, leur dit « Vous auriez dû m'écouter, mes amis, et ne pas quitter la Crète. Nous aurions ainsi évité ces dommages et ces pertes. Mais maintenant, je vous invite à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie. Le bateau seul se perdra. Cette nuit, en effet, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers s'est approché de moi il m'a dit. N'aie pas peur, Paul. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur, et Dieu, dans sa bonté pour toi, t'accorde aussi la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. Courage donc, mes amis, car j'ai confiance en Dieu. Il en sera comme il m'a dit. Mais nous devons échouer sur la côte du Nil. C'était la 14e nuit que la tempête nous emportait sur la mer Méditerranée. Vers minuit, les marins eurent l'impression que nous approchions d'une terre. Ils lancèrent une sonde et trouvèrent que l'eau était profonde de 37 mètres. Un peu plus loin, ils lancèrent de nouveau la sonde et trouvèrent 28 mètres de profondeur. Ils craignaient que notre bateau ne heurte des rochers. C'est pourquoi ils jetèrent 4 ancres à l'arrière et attendirent avec impatience la venue du jour. Cependant, les marins cherchaient à s'échapper du navire. Ils firent descendre à l'eau le canot de sauvetage et prétendirent qu'ils allaient fixer des ancres à l'avant du bateau. Paul dit à l'officier romain et aux soldats, « Si ces gens ne restent pas sur le bateau, vous ne pouvez pas être sauvés. » Alors les soldats coupèrent les cordes qui retenaient le canot et le laissèrent aller. Avant la venue du jour, Paul les invita tous à prendre de la nourriture en disant « Voici aujourd'hui 14 jours que dure votre attente angoissée et que vous restez sans rien manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car vous en avez besoin pour être sauvés. Aucun de vous ne perdra même un cheveu de sa tête. » Sur ces mots, Paul prit du pain et remercia Dieu devant tous. Puis il le rompit et se mit à manger. Tous reprirent alors courage et mangèrent aussi. Nous étions sur le bateau, 276 personnes en tout. Quand chacun eut mangé à sa faim, on jeta le blé à la mer pour alléger le bateau. Lorsque le jour parut, les marins ne reconnurent pas la terre, mais ils aperçurent une baie avec une plage, et décidèrent d'y faire aborder le bateau, si possible. Ils détachèrent les ancres et les laissèrent partir dans la mer. Ils délièrent en même temps les cordes des rames qui servaient de gouvernail. Puis, ils hissèrent une voile à l'avant du bateau pour que le vent le pousse, et ils se dirigèrent vers la plage. Mais ils arrivèrent contre un banc de sable entre deux courants où le bateau resta pris. La partie avant du bateau était enfoncée dans le sable et ne pouvait pas bouger, tandis que la partie arrière était brisée par la violence des vagues. Les soldats voulaient tuer les prisonniers afin qu'aucun d'eux ne s'échappe à la nage. Mais l'officier romain qui désirait sauver Paul les empêcha d'exécuter leur projet. Il ordonna à ceux qui savaient nager de sauter à l'eau les premiers pour gagner la terre. Les autres devaient les suivre en se tenant à des planches ou à des débris du bateau, et c'est ainsi que tous parvinrent à terre, sains et saufs.
Donc le thème de notre culte aujourd'hui, c'est justement l'épreuve, la plus grande épreuve de ma vie. Alors, nous avons trouvé quelques témoignages dans un livre intéressant qui s'intitule « 6 milliards d'autres ». Alors, on ne va pas vous lire 6 milliards de témoignages, mais 4 exemples de témoignages d'épreuves difficiles aujourd'hui. Sachant que les uns les autres, quel que soit notre âge, on peut vivre des épreuves difficiles. Et puis après, le texte biblique que nous venons de lire comme une grande épopée C'est vrai, c'est assez fou. C'est fou de penser que pour ceux qui ont écrit la Bible, c'était important de nous donner un chapitre presque entier d'un récit de difficultés et de naufrages. Et bien après, je vous inviterai à réfléchir à une ou deux des pistes qui nous sont données dans l'histoire de ce naufrage. Mais d'abord, quelques témoignages.
Le témoignage de Nadia, qui vit en Turquie. L'expérience la plus difficile, c'était il y a 6 ans. J'ai eu une tumeur au cerveau. Le jour où je l'ai appris, j'ai fait une IRM à Istanbul et le médecin m'a tout de suite dit « Vous avez une tumeur au cerveau ». Je suis sortie dans la rue, il y avait beaucoup de circulation comme toujours à Istanbul et je me suis demandé ce que j'allais faire. Je me suis dit « J'ai une tumeur au cerveau et tout le monde bouge autour de moi et je vais mourir, c'est ça ?» J'ai appelé mon mari qui était occupé à ses affaires. Il y avait beaucoup de bruit où il était. Il n'entendait pas ce que je lui disais. Je me suis retrouvée seule et je me suis dit, ça y est, je vais mourir. Cette expérience a été la plus difficile dans ma vie, et aussi la meilleure. Car une fois que j'ai été opérée, ma vie a complètement changé. J'ai radicalement modifié mon mode de vie. J'ai commencé à faire exactement ce que je voulais faire. J'ai cessé de voir des gens que je n'avais pas envie de voir. Cette expérience a donc été la plus mauvaise et la meilleure en même temps. L'expérience de Kirstine, qui vit en Suède. La violence dont j'ai été victime, je veux appeler ça de la torture. Mon père est probablement la plus gentille personne que j'ai jamais rencontrée. Nous, on apprenait à écouter aux portes pour savoir si c'était le moment d'y aller. On savait qu'on disait ce qu'il ne fallait pas, et on savait que quand on disait ce qu'il ne fallait pas, je ne dis pas qu'on se faisait frapper, parce que quand on frappe un enfant avec une chaîne, je n'appelle pas ça frapper. Je veux appeler ça torturer. Mais après, il y a l'autre côté de la violence, qui est psychologique, celle qui dit « Si tu ne fais pas ce que je te dis de faire, je ne te protégerai pas contre la violence physique. » Il m'a fallu beaucoup d'années pour comprendre que mon père utilisait la violence physique et que ma mère avait recours à la violence psychologique. Le témoignage de Marie, qui vit à La Réunion. La plus grande souffrance a été la mort de mon mari. On était ensemble, il était vivant, on discutait. Et il est mort. Rupture d'anévrisme. Ça va très vite, en un claquement de doigts. Tu es en vie, tu es mort. Avant de vivre ça, j'avais l'expérience de la mort. Parce qu'à La Réunion, on participe aux veillées mortuaires. On en parle, voilà. Ça fait partie de la vie, vraiment. Perdre mon père, il y avait une sorte de logique. Mais perdre un mari, alors que l'on est vraiment dans des projets de vie, avec un enfant petit, ça a été d'une violence sans nom. Et puis le témoignage d'Akuzawa, qui vit à Los Angeles. Le moment le plus dur de ma vie, c'est lorsque j'ai appris que mon plus jeune fils, qui avait 25 ans, avait été brutalement assassiné. Ça a été très très dur. Et j'ai appris la nouvelle par le coroner, ce qui n'était pas la meilleure façon de l'apprendre. Je me souviens que mon cœur battait à 100 à l'heure. Je pensais avoir une crise cardiaque. Je me revois leur demander « Pourquoi ? Que s'est-il passé ?» Je n'ai jamais fait quoi que ce soit pour qu'un tel malheur tombe sur moi. Plus je me posais cette question, plus je me demandais combien de gens ont perdu la vie, combien de personnes meurent de morts violentes, combien de mères ont souffert au point où je souffre. J'ai appris qu'il faut traverser des épreuves, parfois, et ceux qui sont assez forts pour les surmonter en tirent une leçon. Il y a une leçon dans chaque chose de la vie, et la vie a un sens, que nous devons trouver. Je cherche toujours le sens du meurtre de mon fils, parce que je crois que cela même a un sens. Je sais aussi que la force intérieure que j'en ai tirée, je peux la partager avec d'autres gens qui n'ont peut-être pas la force et l'énergie pour supporter la perte d'un être cher. Pas seulement perdre un être cher, mais le perdre des mains d'un autre. Je dois dire que c'est cela l'épreuve la plus dure que j'ai eu à affronter dans la vie.
Alors, des épreuves, on en affronte tous, à tous les âges. Et puis, à un moment donné, on se dit, c'est tellement terrible que je suis pas sûr de m'en sortir. Le texte qu'on vient de lire dit à peu près ça. Il a pris 5-6 minutes pour être lu. Mais si vous vous souvenez, on parle en jours, en semaines, il y a un temps qui est long. Ça commence avec un rugissement du vent, un incroyable déferlement de force, une mer en furie. Alors dans la Bible, il y a plusieurs récits hein, qui ressemblent à ce genre de tempête. Mais il ne faut pas se tromper. L'image des tourmentes que peut aussi connaître la vie humaine. C'est pas seulement un récit à caractère spectaculaire, un film qu'on peut dire « Ah ben oui, tiens, Paul a passé par là ». Je suis convaincu que si ce texte est dans la Bible, aussi long, avec autant de descriptions, autant de petits épisodes, c'est parce que quelque part il est un exemple. Non pas un exemple à suivre, mais un exemple des tourmentes que nous pouvons aussi vivre. Avec une grave maladie, avec un accident, un deuil, une angoisse, une situation limite. Et quand on parle de tempête pour nos propres vies, eh bien, on peut aussi laisser aller notre imagination pour suivre le chemin de Paul. Alors imaginons le bateau qui monte et qui retombe, l'impossibilité de manger et de dormir, des vêtements mouillés, le sel qui brûle, la structure du navire qui est ébranlée. Et si on laisse ces images nous parler, on peut se retrouver dans tel ou tel moment d'angoisse, de peur, et on se dit, mais est-ce que je vais m'en sortir? Quand tout concourt à briser le corps et l'âme, quand même les marins, malgré leur expérience, leur travail, leur endurance et leur métier, disent, je sais pas comment faire, dans notre histoire, Ils jettent pas tout. D'abord, ils se resserrent. Et puis après, ils jettent le matériel. Puis après, ils jettent même ce qui sert à conduire le bateau. Et puis avant de jeter les humains qui sont dessus, parce qu'ils essayent encore de se sauver, qu'est-ce qui arrive? Il y a beaucoup de temps pour tout ça. Et voilà que là au milieu, dans notre récit, il y a Paul, un parmi 276. Et Paul dit deux mots étonnants, courage et confiance. Il le dit comment? Il le dit pas en disant, moi, le grand Paul, je sais, j'ai déjà passé par là, faites-vous en pas, ça va aller. Non. Il dit en fait, la seule chose qu'il a, parce que si vous avez bien retenu l'histoire, sur ce bateau, il a rien, il est prisonnier. Il n'est même pas quelqu'un à qui on a demandé un avis. Il est privé de sa liberté. Il est entièrement aux mains des soldats qui sont chargés de l'amener dans la prison suivante, d'un côté, et entièrement dans les mains des marins qui, eux, ont une certaine maîtrise du bateau. Paul n'a rien dans ses mains. Rien. Et c'est peut-être quand on est dans ce rien-là qu'on peut donner quelque chose. C'est un paradoxe de ce texte. C'est Paul qui n'a rien peut donner. Et probablement que c'est ça le sens, pour un des sens les plus profonds de cette histoire. Parce que on ne peut partager que ce qu'on a reçu. Et apparemment, il n'a rien. Que peut-il partager? Il le partage au nom de Dieu en disant, j'ai reçu une confiance, je vous la partage. Je vous l'impose pas. Moi aussi, j'ai vécu des fois des choses difficiles, pour parler d'une un peu vieille, parce que c'est pas marrant de parler de choses trop récentes. Quand j'avais 18 ans, j'ai fait une chute grave, je suis tombé, montagne et tout, j'étais un peu tout cassé, pendant un certain temps dans le coma, puis quand je me suis réveillé, on m'a dit que j'allais être paralysé. Grave crise. Je vais faire quoi de ça? Eh bien, le temps a pris longtemps, jusqu'à ce que je puisse entendre une petite voix qui me disait un courage et une confiance pour vivre. Alors oui, maintenant, longtemps après, je peux me dire, comme dans un des témoignages, il y avait quelque chose de très dur, et puis finalement c'était bien, parce que maintenant je suis vivant. Oui, mais c'est moi, et c'est moi, longtemps après, qui peux le dire. Je me souviens, sur mon lit d'hôpital, d'avoir eu quelques visites de gens qui me disaient, tu verras, Dieu va t'apprendre quelque chose. Mais j'ai détesté entendre ça. D'abord, personne n'avait le droit de me le dire, je trouvais. Personne n'avait le droit de me dire, tu verras, ton épreuve, elle te fera du bien. Et d'ailleurs, si vous entendez, Paul ne dit pas ça, là, dans ce texte. Donc, nous, les uns les autres, avons vécu une grande douleur, une grande angoisse, ou au pluriel. Et quelque chose a pu arriver en nous, à un moment donné, qui fait que tout d'un coup, cette confiance revient. Mais elle ne revient pas de manière magique. Il suffit pas de mettre les mains comme ça puis de prier très fort pendant une heure tous les jours pendant deux semaines. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Mais c'est pas ça qui fait que tout d'un coup quelque chose arrive. Dans notre récit, il y a 276 personnes sur le bateau. Le bateau qui part à la catastrophe. N'oubliez pas, 276 personnes. Alors oui, nous, longtemps après, on dit c'est dans la Bible, et puis il y avait Paul, et puis Paul, oui, c'est quelqu'un de bien, et puis Paul, lui, il doit savoir. Mais qu'est-ce qu'on en sait sur le moment? On ne sait rien de ça. Au contraire, si on se met dans ce temps-là, Paul, c'est qui? C'est un prisonnier. C'est un gars à fond de cale. C'est quelqu'un qui a rien dans ses mains. Il est même privé de liberté, il a rien. Eh bien, c'est ce gars qui a rien là au milieu, qui tout d'un coup, de manière complètement surprenante pour les marins et pour les officiers, c'est de lui que va venir une parole de courage. C'est inattendu. C'est souvent comme ça aussi pour notre vie. On ne sait pas pourquoi. Tout d'un coup, une rencontre, une parole, va nous amener sur un chemin où on sera prêt à l'entendre, pour ne pas rester dans le désespoir de l'épreuve. Mais il ne faut pas vouloir aller trop vite. Il ne faut pas vouloir forcer. Si maintenant je vais faire des visites à l'hôpital en disant à quelqu'un qui est tout cassé, « Oh, tu verras, moi j'avais 18 ans et moi je m'en suis sorti. » Ça lui fait une belle jambe. Lui, il n'est pas là. Lui, il est dans le désespoir de ne pas savoir s'il aura un chemin. Le mieux que je peux faire, c'est me taire. C'est simplement être avec et me taire. Parce que c'est pas en étant persuadé d'avoir une parole à dire que ça va s'arranger. Mais si, sachant que une fois Dieu m'a rencontré, je peux être simplement là, un des 276 dans le bateau, eh bien Dieu se débrouillera assez pour trouver quelqu'un, pas forcément moi, une parole, pas forcément la mienne, qui va aider dans la situation de crise et de désespoir. Parce que ce qui est extraordinaire dans ce récit, c'est que les 276 s'en sortent. Mais les 276, si vous relisez ce récit-là, mais qu'est-ce qu'ils ont eu peur? Qu'est-ce qu'ils ont été ballottés? Et ils avaient probablement, plusieurs ont dû perdre l'idée de « je peux m'en sortir tout seul ». Les marins ont dû tout jeter. L'officier a dû accepter que les prisonniers sautent dans l'eau et de ne pas les garder. Tous, sur ces 276, donc, ont dû perdre une maîtrise de décision, enfin, la maîtrise de « je suis capable de m'en sortir ». Et c'est quand ils ont perdu cette maîtrise-là qu'une sorte de vraie rencontre a eu lieu. Mais alors ne me faites pas dire ce que je crois que j'ai pas dit. Il suffit pas d'être en pleine crise et puis dire « ça y est Seigneur, maintenant je perds toute ma maîtrise, vas-y aide-moi ». De nouveau, c'est chacun son chemin. Pour quelqu'un, l'angoisse ou la crise va durer quelques heures, quelques semaines, quelques années. Personne ne connaît exactement le temps et le chemin que ça prend. Mais ce qu'on peut savoir en lisant l'histoire de Paul, c'est que, à un moment donné, nos yeux, nos oreilles, nos sens s'ouvrent. Et tout d'un coup, sur ce bateau, on entend une voix. Et une voix qui dit confiance. Puis ça, je vais terminer par là, je crois que je vous l'ai déjà raconté. Le mot confiance, dans la Bible, est un mot assez génial. Parce que, il représente très concrètement la nourrice qui tient son petit contre elle. Relation, distance, proximité, ça n'empêche pas la nourrice d'avoir mal ou le bébé d'avoir mal. Mais c'est ce mot-là qui nous met en route. Alors voilà, dans l'histoire de Paul, la tempête n'a pas eu le dernier mot. Dans d'autres histoires, eh bien, il n'y a pas eu de salut pour les 276. Je ne sais pas quelle est votre histoire, je connais un petit bout de la mienne. Je ne sais pas encore combien. Mais ici, cette réflexion sur la plus grande épreuve de ma vie, enfin, ou les plus grandes épreuves, parce que des fois il y en a plusieurs, peuvent nous aider à garder un immense respect les uns pour les autres. Une immense amitié, une solidarité avec les 276, pour voir comment on peut s'entraider les uns les autres, même privés de liberté. Et un immense respect pour pas avoir une leçon de salut à donner aux autres, eh bien là, Dieu va pouvoir faire son chemin, de manière très inattendue, mais il va le faire. Amen.